L'actualité francophone avec la radio-télévision suisse, la RTBF en Belgique, Radio-Canada, Radio France Internationale et France Inter. Au sommaire en Belgique, une fillette kurde tuée par le tir d'un policier lors d'une course-poursuite entre forces de l'ordre et migrants. Le Canada en pleine préparation du sommet du G7 début juin au Québec. La visite à Paris du président du Rwanda, Paul Kagame, et la France qui soutient une candidature rwandaise à la tête de la francophonie. Les chemins de fer suisses vont les voyageurs, victimes de retards à répétition. En France, un discours d'Emmanuel Macron sur les banlieues très mal accueilli par de nombreux élus. D'abord, les personnalités de la semaine en Afrique, Charlotte Hydrac, des miraculés ouest-africains secourus au large du Brésil.
Oui, ils étaient 25 au total, des Sénégalais, Guinéens, Nigérians et Sierra Léonais. Ils ont traversé l'Atlantique en catamaran depuis le Cap-Vert avec deux passeurs en versant 1000 euros à chacun. Mais l'équipée tourne mal, pas de GPS, panne de moteur, leur bateau dérive. Ils sont finalement repérés par des pêcheurs brésiliens après 33 jours en mer. Alors que l'Europe ferme ses portes, on n'a sans doute pas fini de parler de cette nouvelle route de l'émigration.
C'est au rayon football que se trouve celui qui a fait parler de lui toute la semaine en Belgique, Nathalie Devic.
Et même au-delà de nos frontières, le très populaire Raja Nainggolan, médian de la Roma, n'a pas été retenu parmi les Diables Rouges, notre équipe nationale, pour la Coupe du Monde en Russie. Le sélectionneur Roberto Martinez parle d'un choix tactique, mais sa décision déchaîne les passions. De nombreux supporters, joueurs, consultants ne comprennent pas cette éviction. Ils pointent la mésentente entre les deux hommes, le caractère pas simple à gérer du joueur, lequel a du coup annoncé mettre fin à sa carrière internationale, ce qui ne l'empêchera pas d'être présent côté sponsor dans toutes les campagnes pub préenregistrées où il figure sous l'inscription Red Together, rouge ensemble. L'Union belge ne compte pas l'effacer.
La personnalité de la semaine en France, Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille, obligé de commenter, un peu gêné, l'irruption lundi dernier d'un commando armé dans une cité de Marseille. La vidéo a fait le tour du net. Au départ, une fusillade, des policiers appelés sur place, une voiture tente de les bloquer. À l'intérieur, des malfaiteurs cagoulés mettent en joue les policiers avec des kalachnikovs. On n'avait aucune chance, il y a des malfaiteurs qui ne craignent ni la police, ni la justice, a dit un policier qui est intervenu. Le procureur pense que ce commando est lié à une lutte de territoire par rapport à différents points de vente de stupéfiants. Le commando est introuvable. En Suisse, Pierre Anchoffa, vous avez retenu Pierre Maudet, le nouveau président du gouvernement genevois.
Oui, brillamment réélu au Conseil d'État, ce libéral radical a été choisi par ses 6 collègues pour diriger leurs travaux. Ils lui ont témoigné leur confiance en dépit de la polémique sur son voyage à Abu Dhabi en 2015 pour le Grand Prix de Formule 1. Un déplacement organisé par un ami, mais payé au final par un entrepreneur libanais sur place. « J'ai sans doute été imprudent », a reconnu Pierre Maudet, tout en assurant que ce voyage privé n'avait donné lieu à aucune contrepartie. La justice poursuit toutefois son enquête sur le soupçon d'acceptation d'un avantage.
Au Canada, Benoît Audet, le ministre de l'Industrie, a marqué l'actualité cette semaine.
Oui, il s'appelle Navdeep Bains. Il a pris une décision importante en bloquant la vente d'un géant canadien de l'ingénierie, Aecon, à des intérêts chinois. Le gouvernement canadien étudiait la transaction depuis plusieurs mois et il s'y est finalement opposé pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision risque d'avoir des conséquences négatives sur les relations entre le Canada et la Chine, au moment même où Ottawa tente d'entreprendre des négociations pour en venir à un accord de libre-échange avec Pékin.
En Belgique, Nathalie Devic, c'est une affaire tragique qui secoue l'opinion depuis la semaine dernière.
Un enfant qui fuit la guerre ne peut mourir en Belgique d'une balle de la police, titrait la presse. C'est pourtant bien ce qui s'est passé sur une de nos autoroutes. 4 voitures de police prennent en chasse une camionnette suspecte. À son bord, une vingtaine de migrants. Après 60 km de course-poursuite, un des policiers tire en direction, semble-t-il, du chauffeur. C'est une petite fille de 2 ans, assise juste derrière, sur les genoux de sa maman, qui prend le coup en pleine tête. Maouda décédera dans l'ambulance. Ses parents n'ont pas pu l'accompagner. Ils apprendront la nouvelle au poste. Cette histoire a ému la Belgique entière. Fallait-il vraiment tirer? Pour certains, ce drame est révélateur d'un climat répressif de plus en plus dur envers les migrants. Le président nationaliste flamand a soulevé des réactions outrées en pointant la responsabilité des parents dans le décès de leur fille. Ce sont eux qui l'ont exposée à des risques en tentant par tous les moyens de gagner l'Angleterre. Des rassemblements ont eu lieu pour soutenir la famille, réclamer plus d'humanité et dénoncer la politique d'asile de notre gouvernement.
Oui, Stan Talidovic, alors que la Belgique connaît une recrudescence du nombre de passeurs sur ses autoroutes depuis le démantèlement de la jungle de Calais en France.
Oui, le phénomène est en augmentation. La camionnette dans laquelle la petite Maouda a été tuée venait apparemment d'Allemagne, refoulée par les Français à Grande-Synthe. Des migrants tous kurdes d'Irak, aujourd'hui renvoyés vers la France, alors que les passeurs n'ont pas été identifiés, comme souvent dans ces cas-là. Car outre le problème de la langue, c'est la loi du silence sur qui conduit, qui organise cette traite d'êtres humains. Le Premier ministre, lui, assure vouloir faire toute la lumière sur cette affaire. Question d'honneur, dit-il, pour notre démocratie. L'enquête est en cours. La petite Maouda, elle, a été enterrée chez nous. Sa famille pourrait être régularisée en Belgique pour circonstances exceptionnelles.
En France, bredouille, chaos debout, écœuré, voilà les mots de plusieurs maires de villes de banlieue réagissant au discours d'Emmanuel Macron prononcé mardi sur les quartiers en difficulté, les banlieues. Il y a en France 1300 quartiers prioritaires, défavorisés, où vivent 5 millions de personnes. Des quartiers qui se sentent abandonnés, faute de rénovation urbaine, où le chômage bat des records, où des bandes vivent du trafic de drogue. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de plan chiffré, pas de plan Marshall de plusieurs milliards d'euros. Ça ne marche plus, dit-il. Emmanuel Macron veut un changement de méthode pour rétablir l'égalité. Il a promis des places en crèche, subventionnées, des stages en entreprise, des tests anti-discrimination pour favoriser l'embauche des jeunes, 1300 policiers supplémentaires pour 60 quartiers, un plan de lutte contre les trafics de drogue. Sylvine Thomassin, maire socialiste de Bondy, commune de Seine-Saint-Denis, a le sentiment d'être méprisée.
J'en retiens quoi ? Le mépris des maires, qu'on a traité de clientélistes par trois fois. Qu'ils viennent un peu diriger les villes à notre place, monsieur le président de la République, qui n'a jamais été un élu local. Je retiens le manque de connaissance des territoires, le manque d'intelligence des territoires de la part de ce président et de ce gouvernement. On va tenir combien de temps, comme ça, sur une ligne de crête et sur un fil fragile ? J'attends de ce gouvernement qu'il nous aide. Vraiment, et pour nous aider, il faut qu'ils nous entendent. Le problème, c'est qu'ils ne nous écoutent pas.
La presse est aussi très sévère. Quelques formules relevées dans les quotidiens. Un plan bisounours qui ressemble à une coquille vide. Pas d'horizon, pas d'objectif, pas un sou. Le Big Bang pour pas cher. Quitte à échouer sur les banlieues, autant le faire à moindre frais. La Suisse, Pierre Anchoffat, les trains chez vous n'arrivent pas toujours à l'heure et il est désormais question d'indemniser les voyageurs.
Oui, le Parlement va s'emparer de ce thème la semaine prochaine. L'idée est d'appliquer le modèle qui a déjà cours au sein de l'Union européenne, soit un remboursement du quart du prix quand le train est retardé d'au moins une heure. Mais les CFF, les chemins de fer fédéraux, vont expérimenter un autre modèle cet été pour dédommager les pendulaires ou les navetteurs. Et là, il s'agira de retards programmés.
Oui, Pierre Anchoffat, parce qu'en Suisse, les retards sont prévus maintenant.
Oui, en quelque sorte, en raison du renouvellement des voies, un tronçon sur l'axe Genève-Berne sera tout simplement fermé pendant 7 semaines, ce qui nécessitera de faire un détour pour le trafic interville et même d'emprunter des bus de remplacement sur le trafic local. Et les CFF vont donc traquer les voyageurs qui l'acceptent via une application et dès le 10e trajet prolongé d'au moins 20 minutes, ils recevront un bon de 100 francs suisses, une solution alternative qui satisfait Robin Eman de la Fédération romande des consommateurs.
Dans l'Union européenne, l'indemnisation, elle est de 25% du billet quand il y a 60 minutes de retard. En Suisse, il y a très rarement 60 minutes de retard. Donc déjà, l'indemnisation n'est pas très élevée. Là, 100 francs, le but, c'est d'indemniser en partie les pendulaires. Alors évidemment, les 20 minutes, 30 minutes que vous perdrez, bah, c'est pas avec 100 francs que vous les récupérez. Mais au moins, c'est un geste. Et c'est un geste volontaire. On l'a demandé au CFF et on l'a obtenu. Donc c'est quand même une victoire.
Reste que pour cela, il faut accepter de se faire géolocaliser, ce qui fait tousser certains spécialistes de la protection des données, d'autant que l'entreprise de transport parle de projets pilotes qui pourraient s'étendre à l'ensemble du pays.
L'actualité en Afrique, Charlotte Hydrak, et une candidature rwandaise à la tête de la francophonie.
Oui, Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, est sur le rang et cette candidature fait grincer des dents. Le Rwanda, qui entretient des relations tendues avec la France depuis le génocide de 1994, a rejoint le Commonwealth et même s'il reste une langue officielle, eh bien le français a été remplacé par l'anglais dans les écoles du pays depuis 2008. Mais le président rwandais, Paul Kagame, en visite à Paris, a tenté de rassurer en anglais.
Je veux dire que le Rwanda a toujours été membre de la francophonie. Certains ont pu croire que nous avions cessé d'en faire partie, mais ce n'est pas le cas. Nous avons rejoint en plus d'autres organisations.
Et cette candidature rwandaise a reçu un soutien de poids, celui de Paris, par la voix du président Emmanuel Macron.
Je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Et elle a une maîtrise parfaite de la langue française.
Un soutien qui marque un rapprochement entre Paris et Kigali, mais qui fait bondir les opposants rwandais. Ils soulignent le caractère autoritaire du régime rwandais, incompatible selon eux avec les valeurs de démocratie véhiculées par la francophonie. C'est aussi un coup dur pour la Québécoise d'origine haïtienne Michaëlle Jean, l'actuelle patronne de l'organisation qui remplirait bien pour un deuxième mandat. Le Canada lui a réitéré son soutien.
Le Canada, justement, va accueillir les dirigeants du G7 dans 2 semaines. Ce sera dans la région de Charlevoix, au Québec. Benoît Audet, les préparatifs sont menés rondement afin que tout soit prêt.
Oui, c'est devenu une tradition depuis quelques années. Les lieux où se tiennent les sommets du G7 sont transformés en véritables forteresses et la petite ville de Lamalbaie dans Charlevoix n'y échappe pas. Un périmètre de sécurité est déjà bien en place. Les policiers sont déjà présents. Et pour ce qui est des manifestants, ils pourront s'exprimer, oui, mais bien loin du sommet. Mais ce sera dans la ville de Québec après 2 heures de route.
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a visité la région cette semaine pour préparer le sommet.
Oui, il a participé à des rencontres officielles, mais il a aussi rencontré des résidents de Lamalbaie, une opération de relations publiques en quelque sorte. Des avis qui sont partagés sur la tenue du sommet, comme vous allez l'entendre.
De voir qu'un paquet de gens dans le monde vont avoir les yeux tournés vers notre belle région, je trouve ça extraordinaire.
On parle encore de croissance. Moi, je suis rendue à la décroissance. Je suis rendue à la démondialisation.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un G7 qui aurait coûté un peu moins cher, je sais pas, moi, dans un parlement, quelque chose comme ça, où il y a déjà des structures qui sont là pour accueillir des chefs d'État?
Malgré quelques voix discordantes, il faut quand même préciser que dans l'ensemble, les gens de la région semblent plutôt favorables à la tenue du G7. Les chefs d'État et de gouvernement seront donc à Lamalbaie dans 2 semaines au menu de leur discussion, entre autres les emplois de l'avenir et l'égalité des sexes.
L'actualité francophone, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.